Dans ma ville, dans le jardin public, j'ai vu un enfant de 3 ans qui jouait avec un pistolet jaune en plastique. J'espère que la gendarmerie va lui mettre le grappin dessus et le faire parler jusqu'à ce qu'il avoue.
Bonjour, flash de 16h sur France Inter. La grande distribution se plaint du manque à gagner occasionné par le blocage de leur centrale par les producteurs de lait. On croit rêver. S'est-elle un jour demandé cette grande distribution si les producteurs de lait n'avaient pas un manque à gagner avec les prix réglés aux producteurs depuis 20 ans qui sont en baisse tous les ans? Continuez les éleveurs, c'est bien. Au revoir.
Salut, c'est juste pour rigoler un peu parce que Julien Coupa est paraît-il partie du comité invisible, je trouve qu'aujourd'hui au niveau invisibilité, c'est carrément loupé quoi. On reste plus que le comité maintenant quoi. Allez, salut.
Samedi 30 mai 2009. Je me suis réveillé très tôt ce matin. Je suis sorti fumer une cigarette dans le jardin. C'est déjà l'été. J'ai d'ailleurs remarqué que le découpage officiel des saisons est inexact. Elle se présente très régulièrement, un mois avant la date convenue. Fin mai, on est déjà en été. De même que l'automne commence fin août, l'hiver fin novembre, et le printemps fin février. Comme quoi, les solstices ne sont pas de bons repères pour la délimitation des saisons. C'est déjà l'été parce qu'il fait très doux, et parce que dès qu'on sort de la maison à 6h du matin, on est immédiatement plongé dans une atmosphère de bien-être. Les petits matins des belles journées d'été, c'est le moment de l'année où la température ambiante est idéale. Aucun appareil de chauffage ou de climatisation produit par l'industrie humaine n'atteindra jamais une telle perfection, une telle justesse. C'est LA bonne température, comme seule la nature est capable de la régler. Mais c'est aussi parce que l'idéale douceur de ces petits matins d'été est si prometteuse quand on est jeune, qu'elle exhale tant de douloureuses nostalgies au fur et à mesure qu'on avance en âge. Écrit le samedi 30 mai 2009, un peu après 6h du matin.
Bonjour, c'est Cédric de Saint-Étienne. Voilà, je t'appelle pour te remercier, Daniel, de tes émissions sur la Bolivie, c'est vraiment super. Je voulais dire aussi, j'ai entendu la dame qui disait qu'elle aimerait bien avoir un président comme Evo Morales. Moi aussi, je crois qu'on peut tous rêver d'avoir un président qui vienne vraiment du peuple, et que plutôt qu'attendre que cet homme providentiel se présente, les comités que propose Evo Morales et qui l'ont amené au pouvoir, me semble-t-il, sont venus de la base et que c'est les gens qui eux-mêmes, comme c'est dit par certains dans ton émission, ont pris conscience de leur pouvoir et de la manière qu'ensemble on peut décider. Et c'est comme ça que peut-être un Evo Morales français pourrait apparaître plutôt qu'attendre utopiquement à la télé ou dans les parties lambda, voir apparaître une figure derrière laquelle s'allier et après être forcément déçu de ce qu'il fera. Il faut porter par la base, c'est de nous que viendra la solution et pas d'un président quel qu'il soit. Merci Daniel pour tes émissions.
Bonjour, je viens d'écouter l'émission sur le Pérou et sur Potosi. Là. J'y suis allée au mois de septembre, moi. Enfin, je ne suis pas rentrée dans la mine parce que lorsque j'ai vu ce trou noir, là, j'ai pas pu y aller. Mais il n'a pas été dit que les mineurs devaient acheter leur dynamite, leur alcool, leur coca et tout ça. Enfin bref. Donc voilà, et c'est ce qui nous avait été dit vraiment là-bas sur place, au petit magasin où les mineurs, où on achetait tout pour les mineurs là. Voilà, bien, bonjour, votre émission est très bien. Au revoir.
Merci. Ben on continue alors si c'est très bien. Et on est effectivement à Potosi, à 4200 mètres d'altitude, la ville elle-même et la mine de Cerro Rico, la mine la plus fabuleuse et la plus célèbre du monde. Fabuleuse, elle le fut, elle l'est beaucoup moins aujourd'hui, est devant nous. Et en effet, le matin, dans la fraîcheur glacée du matin, les mineurs achètent eux-mêmes leur bâton de dynamite, le détonateur, leur coca et ce fameux alcool qui les aidera à tenir et à rendre hommage au dieu de la mine, au diable de la mine, le Tiro. Voilà, on continue donc cette à la fois cette découverte et cette comment dire pèlerinage, peut-être pas, mais en tout cas, on est dans un haut lieu, indéniablement, un des plus hauts lieux du monde par, évidemment, l'altitude, mais aussi par le rôle qu'a joué cette ville, ce lieu, cette mine, dans notre histoire, pas seulement en Amérique latine, mais dans le monde entier, et notamment ici, puisque c'est de cette mine que fut extrait l'argent, la monnaie, était fabriqué à Potosi, on va le voir aujourd'hui. Et donc c'est un lieu mythique, un lieu toujours en activité. Des mineurs continuent de s'acharner dans ces boyaux et ces venelles minuscules où nous retrouvons et où nous vous emmenons aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis. Oh, 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour à tous. C'est Hugo à Dijon pour le repère de là-bas, si j'y suis, au Vieux Léon. Eh bien, mardi 2 juin à 20h, c'est le dernier repère de la saison. Il y aura une petite soirée fin juin, mais plus festive. Pour ce repère de mardi, nous allons discuter avec un auteur économiste, Jacques Biléo, qui a écrit en collaboration avec d'autres personnes un livre qui s'appelle « Organisation mondiale du commerce, la supercherie » aux éditions L'Harmattan. Voilà, j'espère que toute l'équipe de là-bas, si j'y suis, va bien. Parce que s'il n'y a plus de radio libre, il y a encore des gens libres à la radio. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les auditeurs de France Inter. Voilà, amitié à tous.
Un éleveur de singes dit un jour à ses pensionnaires en leur distribuant leur châtaigne : désormais, vous en aurez 3 le matin et 4 le soir. Fureur chez les singes. Bon, alors, fait l'homme, ce sera 4 le matin et 3 le soir. Et les singes de manifester leur contentement.
Imaginez, nous sommes seulement à la rentrée de la mine. Imaginez, plus au fond.
Ouh. Et... Oui. Ben, ça sent fort, c'est le soufre.
On peut sentir dire, le soufre ici. Et l'arsenic.
Et l'arsenic aussi.
Oui. Ouah. À la porte de la mine, nous n'avons pas. Oh, vous n'avez pas vu la sang de lama, c'est noir, c'est rouge. Mm-hmm. Oui, la sang de lama.
Le sang du lama.
Pour la pachamama et pour les tios.
On fait des sacrifices de lama.
La lama. Représente la pureté des Andes, de l'ambiance. Donc la lama est sacrifiée à la porte de la mine et la sang est pour la pachamama, pour le tio. Après sacrifier la lama, ils vont enterrer les os à l'intérieur, le cœur, la tête et le ventre. Et puis ils vont manger le corps de la lama, bien sûr. Si on ne fait pas les sacrifices, on n'aura pas bonne production et on peut avoir des accidents. Parce que lui, comme la Pachamama, ont besoin de la sang aussi. Du sang. Oui. Et le sang veut dire la vie.
C'est la vie, oui.
C'est la vie. Donc pour n'avoir pas d'accident, c'est mieux à la Pachamama et au tio.
Salut, c'est là-bas si j'y suis, c'est Daniel Mermet avec Antoine Chao. Bolivie, une révolution en dents de scie.
Flight number 2, arriving from New York.
Qu'est-ce que ça c'est pour le tio?
Il a des bottes en plongée, donc on ne peut pas lui mouiller les pieds qui sont en argile, donc c'est quand même dangereux. Quoi.
Ouais. Gracias. Oh. Ouais. C'est bon, hein? Tout le monde doit boire la même chose, la même quantité. On ne peut pas boire, on ne peut pas dire, ah non, je peux boire la bière, et l'autre va dire, je vais boire une margarita, l'autre va dire, je vais boire l'eau. Non, non, nous sommes ensemble.
Tous pareil.
Ça existe encore.
On en a bavé pour arriver jusque-là, mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. On a fait quoi, 500 mètres peut-être à l'intérieur de cette mine. Et c'est rien du tout par rapport aux dizaines de milliers de mineurs qui nous ont précédés, des dizaines, des centaines de milliers, des millions qui nous ont précédés dans cette mine, dans ce Cerro Rico. Et certains ne sont pas ressortis. Certains, ils sont restés par centaines de milliers. On évalue à de 6 à 8 millions le nombre de mineurs morts dans cette mine ou des conséquences des maladies de la mine. Et on estime à quelques milliers de tonnes le poids d'argent extrait de cette même mine. Aujourd'hui, il y a un débat très passionnant au sujet de cette mine, parce que le Cerro Rico, c'est un triangle, c'est une sorte de pyramide, ocre, rose, gris, c'est très beau, c'est très beau et très pathétique, vous le comprenez après ce que je viens de vous dire, mais c'est le symbole de la Bolivie. Et il y a encore beaucoup d'argent, de minerais d'argent dans cette mine. Mais pour l'exploiter rationnellement aujourd'hui, il faudrait faire une exploitation à ciel ouvert, c'est-à-dire détruire ce cône emblématique. Emblématique et reconnu comme un trésor de l'humanité appartenant au patrimoine de l'humanité et à ce titre ne pouvant pas être transformé. Ça a fait l'objet d'un débat considérable dans l'opinion en Bolivie. Et dans leur grande majorité, on a dit jusqu'à 97%, les Boliviens se sont déclarés favorables à maintenir le site dans son état symbolique, au détriment évidemment de l'intérêt qu'on pourrait y trouver en exploitant les mines. Alors que cela dit, il y a fort à parier que l'exploitation n'aurait pas rapporté beaucoup aux habitants, parce que dans cette région si riche, les habitants sont les plus pauvres de toute la Bolivie. C'est avec eux qu'on va passer cette heure, et on commence donc au fond de la mine. On est là avec Wilbert, notre ami guide, avec deux mineurs autour de cette figure du Tijo, comme on voudra. C'est un diable, c'est une figure qui date de la nuit des mythes Aymara, et peut-être bien Quechua aussi. En tous les cas, on le rencontre à l'entrée de chaque bocamina, c'est-à-dire des entrées des mines. Et il est là, pas très loin, il faut lui faire des offrandes, il faut lui faire un culte, il a un sexe énorme, ce qui garantit évidemment la virilité, ce qui garantit la chance et qui donne peut-être une image symbolique entre ces mines, ces filons. Et puis le phallus, là je m'aventure un peu, mais je pense qu'on doit trouver des explications de ce genre-là devant cet énorme phallus dont est dotée cette figure. Et en tout cas, c'est quelque chose de sérieux, on ne plaisante pas avec ça. Je ne parle pas seulement du phallus, mais du personnage. On lui fait un culte, on lui offre des feuilles de coca et on partage avec lui les libations. Alors on dépose quelques gouttes d'alcool sur le sol, sur le tiro, sur ce personnage, et puis on s'en envoie un petit coup derrière la cravate. Et ce qui se mélange avec la chic de coca que vous avez dans la bouche, qui est très utile et très pratique contre le mal de l'altitude et contre la réduction de la respiration dans ces parages. On est avec ses amis mineurs. Depuis quand vous travaillez à la mine, vous les gars ?
1993.
93 ici.
Pour trouver le filon là sur lequel on travaille, il faut marcher combien de temps encore ? Là, j'aperçois la suite de la galerie. Moi, il faut que je me plie en deux pour marcher là-dedans. C'est combien de temps encore pour arriver au filon ?
Un niveau más, hacia abajo. Moi, je dois redescendre d'un niveau, en fait.
Oui.
Por lo menos me queda unos 30 minutes.
Ouais, il faut que je marche encore 30 minutes.
Alors, ça va être quoi ton activité ? Qu'est-ce que tu vas faire ?
Trabajo individuellement, puedo hacer de todo.
Moi, je travaille seul, alors je fais tout.
Tu fais un trou ?
Sí.
Oui.
Tu mets la dynamite ?
Si, c'est pas la dynamite.
Oui, on met la dynamite.
Mm-hmm. Tu allumes ?
Si.
Tu te caches ?
Si, il faut esconder ce problème avec le gaz à 50 mètres.
Il faut s'éloigner de 50 mètres à peu près, ça dépend.
Là, après l'explosion, il y a de la poussière.
Si, polvo.
Oui, oui, beaucoup de
alors,
poussière.
Alors, tu attends combien de temps avant de revenir à l'endroit de l'explosion ?
Une heure et demie. Picchiando la coca, non ?
Il faut attendre une heure et demie, alors on prend de la coca et on attend.
Si.
Voilà, et puis au bout d'une heure et demie, tu viens voir.
Me acerco y si digamos un disparo falta, entonces hay que verificar, ¿no? Si todo se ha reventado.
Donc là, je m'approche et puis je vérifie mm-hmm. si toutes les charges ont explosé.
Et puis
después, o sea, hay que sacar afuera. Con pala, pico y...
Après, il faut une pelle, une pioche.
Cargando, hay que sacar también.
Alors, faut le charger sur notre dos.
Oh! Sur un sac?
Sac, c'est la capine.
Un sac comme celui-là, mmh. avec une lanière. Un sac en toile.
Ah, d'accord.
Oui, se carga. 10, 20, hasta 50 kilos se puede cargar, non?
Ça dépend, on met 10, 20 ou jusqu'à 50 kilos on peut porter.
Lo que está costando más en la ciudad, non?
Moi, je prends que ce qui a de la valeur, oui.
Plata, plata, estaño...
L'étain.
Es lo que tiene más valor.
C'est después, ça qui a de la valeur.
Después, el complejo es más o menos.
Les mélanges de zinc et de plomb, ça a moins de valeur.
Yo quiero trabajar hasta que tenga otra profesión.
Moi, je vais continuer jusqu'à ce que j'ai un autre métier.
Et qu'est-ce que tu cherches d'autre?
Estoy aprendiendo en sastrería.
J'apprends la confection.
Sí.
Minero de Bolivia! Sí, señor!
C'est un
bon gasco, hein? Ya, ya, soy negrita, corazón noble y minero. Ya, ya, soy negrita, corazón noble y minero. Trabajando noche y día en los negros socavones. Trabajando noche y día, orgullo de mi Bolivia. Pásenlo como un martillo, corazón noble y minero. Pásenlo como un martillo, corazón noble y minero. Sudor sabor a estaño en los negros socavones. Sudor sabor a estaño, orgullo de mi Bolivia.
Eso, Felipe, yo soy mi personal. ¡Pasa! Más sentimiento, hermano minero.
Alors, c'est
attends,
ça.
On va regarder d'abord. Parce que
oui,
c'est tellement extraordinaire, cette machine. Difficile à décrire. D'énormes, on les soufflait parce que on a monté un étage. Apothosie, monter un étage, c'est un exploit. C'est comme monter 12 étages à Paris. Enfin, disons 6. Mais on ne regrette pas du tout parce que on est devant un mystère. Un mystère fait d'énormes rouages en bois. Articulés sur des portiques et des axes métalliques énormes. Ça ressemble à d'énormes roues de moulin. Je ne comprends absolument pas comment ça fonctionne. Alors, il est urgent.
C'est presque, ça ressemblerait à des instruments de torture. Quoi.
Ouais. Alors, c'est quoi?
Ce sont des machines laminoires.
Des laminoires.
Des laminoires, oui. Ils sont venus de Séville, Espagne. Ce sont. Appareils comme ceci, quatre mm-hmm. appareils dans chaque machine, arrivés des lingots,
avec des lingots d'argent,
des lingots d'argent ou d'or aussi, parce qu'on travaille le rapport aussi, mais en petite quantité. Le lingot passé au milieu de ces deux cylindres métalliques. Et l'épaisseur entre les deux cylindres est réduite de plus en plus.
Réduisée de plus en plus.
Et à la fin du processus, on peut obtenir une plaque d'argent avec 2 ou 3 mm d'épaisseur.
Ah, et dans cette plaque d'argent, on frappait monnaie. Et alors, qui et comment faisait-on fonctionner ces énormes rouages de bois?
Bon, ces machines activées par 4 animaux. Mais il y a une autre hypothèse qui dit que peut-être ces machines, n'activé aussi par les personnes, par peut-être des esclaves noirs, oui.
Que peut-être des esclaves noirs.
Oui, il y a une tradition orale,
une
hypothèse, oui.
Ainsi fabriquait-on la monnaie à Potosi.
Par exemple, à Potosi, on frappait les pièces depuis 1545 jusqu'à 1825.
De 1545 à 1825, on a frappé la monnaie à Potosi.
Que pour la couronne espagnole.
Pour la couronne d'Espagne. Et on dit que tout l'argent qui a été extrait de Potosi aurait permis de construire un pont de Potosi jusqu'à Madrid.
Oui, entre Potosi et Séville-Espagne. Il n'y a pas un registre certain combien d'argent est sorti parce qu'il y avait une route de contrebande inconnue par la couronne espagnole jusqu'à 1776. Potosí, Chaco Boliviano, Pampas Argentinas, Rio de la Plata, Buenos Aires et l'Atlantique.
Donc il y avait une contrebande.
Oui, justement, illégale, pas registrée, non.
C'était au profit de qui alors ces filières clandestines?
Les mêmes espagnols.
Donc c'était les propriétaires ici, les grandes familles, qui détournaient de l'argent.
Oui.
Donc se sont bâties les grandes fortunes oligarques.
Oligarques.
Chaque peso frappé à Potosi a coûté la vie à 10 Indiens morts au fond des mines. Alors, cette phrase, elle a été écrite par Fray Antonio de la Cancha. Fray, ça veut dire un frère, un prêtre, probablement, Fray Antonio de la Cancha. Il a écrit ça en 1638. En 1638. Parce que quand on est là, à Potosi, et qu'on évoque évidemment le nombre de morts dans ces mines et des suites des conditions de travail des mineurs, on dit ah oui, mais ça, c'est notre conception d'aujourd'hui, avec notre mentalité d'aujourd'hui, etc. Mais à l'époque, c'était comme ça. Voilà, la vie valait pas cher, et puis les gens se laissaient faire, etc. Et puis on trouvait que c'était normal. Et pas du tout, pas du tout. C'est l'exploitation. Scandalisait certains, pas tous bien évidemment, mais certains. Et il fallait donc un pouvoir énorme pour maintenir cette exploitation. Mais les révoltes n'ont pas manqué, pas seulement les indignations de quelques religieux doués d'un minimum d'humanisme, mais il y a eu tout au long, depuis l'arrivée des Espagnols, toute une suite de révoltes de la part de ceux qu'on appelle toujours aujourd'hui les indigènes, et y compris à Potosi, il y a eu des révoltes. Pour l'instant, donc, vous avez compris, on est dans ce palais, cet impressionnant palais de la Moneda. Aujourd'hui, l'activité dans la mine se maintient, tant bien que mal. La ville a été restaurée ça donne de la colonisation une image assez engageante.
La légende raconte que l'Indien Diego Hualpa est allé à la montagne pour chercher un de lama qu'il a perdu. Mais là, il faisait un peu de froid et il a fait du feu avec les arbustes et les buissons. L'Indien a vu que par la montagne coulaient les petits fils d'argent.
Mais la vérité?
La vérité, ça c'est justement quand l'Indien, il a déjà trouvé l'argent même dans la montagne, mais il ne savait pas la valeur commerciale, la valeur comme métal précieux qu'il avait, donc il ne savait pas qu'est-ce qu'il voulait faire avec ça. Mm-hmm. Et quand il a dit aux Espagnols, ils ont prouvé qu'il était l'argent. Ça c'est le parti, on peut dire, de l'histoire.
Le départ.
Oui, de l'histoire.
Le départ. La découverte de l'argent ici a été le commencement du capitalisme.
Exactement. C'est le départ, comme vous avez dit, de l'histoire.
C'est ça, c'est l'histoire. Alors, après, qu'est-ce qui s'est passé? Les Espagnols ont commencé à creuser.
Oui. Ils ont commencé déjà à faire des galeries pour exploiter l'argent. Et ils ont, on peut dire, dit que la meilleure forme d'obtenir l'argent, ça c'est de frapper les monnaies.
Et des milliers d'hommes sont venus travailler ici?
Au début, les personnes autour de la ville, mais pas assez des hommes, donc les travaux étaient plus forts. Alors on commençait à récolter des autres départements voisins aujourd'hui, Cochabamba, des petits groupes ethniques. Et après, pas suffisant, donc ils ont commencé à emporter, on peut dire, les esclaves noirs.
Les esclaves noirs. Mais les gens de la région, c'était eux-mêmes des esclaves, puisque c'était le travail forcé.
Oui, mais il y avait une petite différence entre les esclaves noirs les personnes, surtout les indigènes qui devaient accomplir le travail de la MITA.
Il y avait la MITA,
c'est le travail forcé, obligatoire, instauré à l'époque coloniale aussi. Les hommes entre 18 et 50 ans, ils devaient travailler par période, du mois à 4 mois, dans les moulins de concassage, dans les mines, et quelquefois comme service domestique aussi pour les Espagnols.
Ils percevaient une rétribution ou non ?
Non, non. Il y a un chroniqueur qui a dit qu'il y avait des statuts aussi entre les mitaillos, qui s'appellent les
personnes. Mitaillos.
Les personnes. Quelques-uns qui avaient un petit salaire, ou quelques-uns qui avaient des outils qu'ils ont reçus, on peut dire, comme...
Ah, soit des petits salaires, des outils.
Et les vêtements aussi, quelquefois. Quand on...
oui. Et des centaines de milliers d'hommes sont morts dans les mines.
Oui, surtout dans les mines et aussi dans les moulins de concassage à cause du gaz toxique qu'ils ont respiré parce qu'ils travaillaient avec le mercure pour le processus de l'amalgame dans les moulins. Et la principale raison de mort, surtout à cause du mercure.
C'est terrible, hein? C'est à la fois une histoire tragique.
Oui.
C'est avant tout une histoire tragique,
pour
potentiel.
Faire une petite monnaie.
Tout ça pour faire une pièce de monnaie, oui.
Ça y est.
Les autos. D'ici, on peut observer tout ensemble.
Ouh.
Et d'ici, on a pu observer les différents temples qu'il y avait à Potosí. San Benito, Santa Teresa, San Lorenzo, Santa Monica, ce sont les différentes églises. Et on a dit qu'ici, venaient à travailler les gardiens parce qu'ils devaient contrôler tout le travail que les indigènes ont fait dans l'hôtel, mais c'est aussi pour observer s'il y avait quelques groupes de personnes qui voulaient faire rébellion.
Ils avaient peur de la rébellion ?
Oui, c'est pour ça qu'il y avait des églises des Espagnols, il y avait les églises que pour les indigènes.
Ah !
Pas confiance, il n'y avait pas beaucoup de confiance. C'est pour ça qu'il y avait les églises être loin l'une de l'autre.
Ah.
Pas après, non. Là, par exemple, San Lorenzo, par un groupe des indigènes, le Bofond, San Bernard, par l'autre groupe, Santa Teresa, San Benito, et la cathédrale, ça c'est là, l'église matrice, non, pour les Espagnols. Pour éviter que les indigènes
se réunissent.
Oui, se réunissent, bien sûr, il fallait les évangéliser, c'est-à-dire pour les contrôler, pour les dominer. La religion a permis de les inculturer. Mais ensuite, leur donner des églises, donc qu'ils soient contents, que leur chef soit content et soit des intermédiaires entre eux et puis les pouvoirs espagnols. Mais il ne fallait pas trop qu'ils se regroupent. C'est très mauvais que le peuple se regroupe. Alors il fallait les disperser. Et en même temps, il fallait aussi les séparer des églises où allaient les Espagnols, les Blancs, les colons, qui avaient leurs églises à eux. Tout ça, c'est un urbanisme colonial. Et c'est formidable de voir aujourd'hui que les guides touristiques vantent la beauté de la ville parce que c'est une ville coloniale. Et il y a une espèce d'admiration pour l'époque coloniale ici. Les touristes viennent admirer ce que fut la colonisation. C'est pas du tout un rejet ni une critique de la colonisation. Comme dans le discours de Nicolas Sarkozy et de beaucoup d'autres. La colonisation, c'était bien, quoi, au fond. Il y avait des petites choses un peu douteuses. Peut-être des esclaves noirs tournaient les machines pour faire la monnaie, mais c'est pas sûr, c'était peut-être des mulets.
Là, vous observez les soupentes, ce sont des petites fenêtres,
hein,
où peut-être dormaient ou vivaient les esclaves noirs.
Et tout ça qui est dominé donc par El Cerro Rico, par la montagne pleine d'argent,
ouais,
qui domine
chose.
Toute cette urbanisation.
Il y avait un triangle productif qui disait la montagne, les moulins de concassage et l'hôtel de la monnaie.
Donc, d'accord.
Le triangle productif.
Là, on concasse. Et là, on fait la monnaie.
Voy llevando los barrenos al socavón, voy llevando los barrenos al socavón, mano fuerte y vida triste, minero soy, minero ojos hoy, golpeando piedra y piedra de sol a sol, de sol a sol. Me duele el pan que me gano, minero soy, minero soy. Pobrecito los mineros, qué buenos muchachos son. Pobrecito los mineros, qué buenos muchachos son. Pero tienen la desgracia de morir sin confesión, de morir sin confesión. Me duele el pan que me gano, minero soy. Me duele el pan que me gano, minero soy. Ya vendrán tiempos mejores, ya vendrán tiempos mejores, ya vendrán tiempos mejores, minero soy, minero soy.
Alors là c'est le quartier rose. Voilà, là on arrive dans la zone rose, la zone de prostitution et du cimetière. Directement du bordel au cimetière. Voilà, ça c'est le cimetière. Donc avec un peu de chance, il y aura du monde parce que lundi c'est le jour du culte des morts, le jour où les gens viennent mettre des fleurs, les gens ils viennent parler un peu avec leurs morts. Tu vois, il y a tous les vendeurs de fleurs.
On va finir par faire le tour des cimetières de Bolivie. Là c'est lundi. Et c'est le jour des morts, c'est le jour où les gens viennent au cimetière honorer leurs morts. Et l'entrée est superbe, parce que tout le long du mur d'entrée, on vend des fleurs fraîches, très très belles fleurs. On compose des bouquets, les gens rentrent avec des bouquets magnifiques. La lumière est superbe là. Il est 4 heures de l'après-midi, le soleil commence à tomber un peu, c'est magnifique. On est à 4000 et quelques mètres. Ça fait une lumière très crue, très forte.
Gracias, Feliciano Berno. Merci, Feliciano Berno, por los favores recibidos de tes faveurs, la familia Llano. La famille Llano.
Je vois un petit endroit avec des quantités d'ex-voto qui sont fixés à l'extérieur, toute une foule.
C'est la tombe d'une âme et c'est un saint qui est spécialisé dans le vol. Mais dans le vol dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il est à la fois, il va t'aider à trouver ce qui a été volé et il aide les voleurs à ne pas être attrapés par la police. Et une des choses qu'il faut dire au saint si tu veux récupérer tes affaires, c'est de lui dire, allez, sois gentil, il s'appelle Feliciano Berno. Sois gentil Feliciano, retrouve-moi mes affaires et je promets que je ne porterai pas plainte contre les voleurs. Il travaille pour tout le monde.
Alors ça veut dire quoi là-dedans? Il y a des gens qui ont été volés? Et puis il y a des gens qui ont été voleurs. Ils n'ont peut-être pas recommencé tout de suite.
Seigneur Feliciano Berni.
Mais il a du succès, il y a du monde, hein.
Oui, il ne fait pas que le vol, mais il est principalement dans le vol. Quand tu te fais voler, tu nourris les chiens du cimetière et le directeur du cimetière te permet d'emmener, c'est un crâne disséqué, te permet d'emmener le crâne chez toi. En fait, la légende, c'est que, bon, tu sais, une fois qu'on vide les tombes de temps en temps, on les met au four. Et paraît-il que la tête de ce monsieur ne voulait pas brûler. Donc il reste sa tête. L'employé du cimetière qui essayait de le brûler a ramené la tête parce que dans les Andes, on pense que les crânes ont cette capacité justement de faire revenir les objets volés. Ils ont une connexion particulière avec les objets volés. Donc le type l'a ramené, a commencé à le louer aux gens qui venaient au cimetière, jusqu'au moment où, je suppose, la dévotion populaire a construit ce petit hôtel. Et en fait, ce qu'il y a derrière toutes ces fleurs, on ne le voit pas, et même si on rentrait plus près, on ne le verrait pas, c'est la tête disséquée de quelqu'un, dont on dit que c'est un ancien combattant de la guerre du Chaco, des années 30, contre le Paraguay.
Quelle merveille. Voilà, et là, il y a
avait toutes les petites familles qui viennent avec des fleurs. C'est des petites fleurs blanches, des petites clochettes, là c'est très beau.
Là c'est les prières.
Là c'est des prières qu'on demande à une aveugle. Et dans le dos d'Antoine, il y a un monsieur aveugle qui est sur son petit tabouret et qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui demande quelque chose et il nous fera des prières, Antoine.
Si tu veux faire quelque chose, des prières, c'est ça.
Si tu veux sortir un peu de ta condition, tu peux lui demander des miracles. Tu vois ? Alors là, ça a l'air quand même pas si drôle que ça. Ça a l'air d'être une dame qui est avec un bébé. Elle est assez inquiète, la maman.
Hein ? Elle est en noir, elle est en deuil.
Elle est en deuil. J'espère que le bébé qu'elle a sur les genoux est vivant. En tout cas, ce que je vois, c'est que l'homme qui est de l'autre côté, qui est peut-être bien le papa, n'a pas l'air très rassuré non plus. Voilà d'autres aveugles. Il y a tout, en fait, tout le long de cette allée, à droite et à gauche, ce sont des aveugles auxquels on demande de faire des prières, de réciter des patères et des aves, je pense, hein. Parce que les aveugles, comme ils ne voient pas, ils ne sont pas distraits par des mauvaises choses, je pense. Ce que je crains, connaissant un petit peu la condition humaine, c'est que là-dedans, il y ait des faux aveugles.
Au cimetière de Potosi avec Pascal Absi, qui est chercheuse et qui connaît cette ville comme sa poche et les habitants comme sa poche, et qui connaît aussi ce qui est en face du cimetière, c'est-à-dire le quartier rose et les bordels de Potosi. On va essayer d'aller faire un tour d'ici à la fin de cette heure. Et pourquoi elle connaît tout ça? Parce qu'elle est chercheuse et elle fait une longue enquête, un long travail sur le travail, justement, et donc sur ce que font les travailleurs quand ils veulent se détendre, et puis comment l'histoire finit, c'est-à-dire dans ce cimetière qui est un lieu très très vivant et très très beau en ce lundi, comme chaque lundi à Potosi.
Non, non pedimos de las almas para que no nos ponga desgracia, nada pedimos.
Non, on prie pas pour le minerai, on prie juste pour ne pas avoir d'accident, pour qu'il nous arrive pas de malheur dans la mine. On demande à nos compagnons, à ceux qui sont morts de la mine, de nous aider aussi à pas avoir d'accident. On leur apporte de la coca, des cigarettes, et on demande à leur âme de nous protéger.
Nous venons à pichar un peu de coca, comme compartíamos tous les compagnons de travail de la mine. Donc, nous recordamos de ellos, comme pichábamos, et en cette tombita, decimos, compañeros, ayúdanos.
On fait comme quand on faisait quand on était en vie, on s'assoit à côté d'eux, on mâche de la coca avec eux, comme quand on travaillait ensemble, et on leur demande de nous aider.
Por eso venimos cada lunes.
C'est pour ça qu'on vient chaque lundi.
Porque gente potosina muere de enfermedad de la mina, no más siempre, mayoría hasta aquí.
Les gens de Potosí meurent surtout du mal de la mine.
Porque es el trabajo de nosotros, de los potosinos, los mineros, no más somos mayoría minero, entonces.
On est presque tous mineurs ici.
Mi hermano se ha fallecido con 30 años. No llegamos mayoría 40 años, 45. Yo por lo menos tengo 46 años. Ya estoy enfermo ya de mal de mina.
Mon frère, il est mort à 30 ans. Ici, on meurt tous à 40, 45. Moi, par exemple, j'ai 46 ans, mais j'ai déjà de la silicose.
Vous travaillez toujours ?
Ah, ya no. Mi gente no más ya.
Maintenant, c'est mes employés qui travaillent.
Vous avez des salariés ?
Sí.
Combien ?
Como 40.
40.
Ah, mais ça c'est rentable, alors vous êtes riche.
Non, pourquoi vamos a hacer así es la mina? Vous savez, quand nous sommes à l'école, quand c'est une veta ancha de 500 dm, de 1000 dm, la plata se hace.
Ben, c'est comme ça, enfin, vous connaissez la mine, parfois quand on trouve un bon filon, eh ben, on se fait beaucoup d'argent.
Et là en ce moment, vous faites beaucoup d'argent?
Ahora, hasta Europa voy a, por camión, estoy importando.
Maintenant, j'importe des camions depuis l'Europe.
Con esa capital, no? Con la capital del...
Avec le capital que je me suis fait dans la mine.
Una empresa me vuelta.
Je suis devenu une entreprise.
Ah, c'est bien, alors c'est une réussite.
Sí. Ahora tengo aquí mis casas, tengo en Sucre.
J'ai des maisons ici, j'ai des maisons à Sucre, partout.
Ah, formidable.
En Argentina tengo 5 appartements tengo.
En Argentine, j'ai 5 appartements.
Así, pero depende de uno, ¿no? Cuando nos pensamos así, no desbaratamos la plata.
Il faut savoir penser bien, il faut savoir pas dépenser son argent.
Un año temporal también sube el mineral. Primera ronda la plata y destruchada, así como cantinas, chicas,
moi,
mujeres.
La première fois que j'ai gagné de l'argent, ça a duré 5 ans, mais j'ai dépensé tout mon argent dans les cantines, dans les bars, avec des filles.
C'est pas bien. La segunda ganada, de ahí ya he administrado mi plata bien ya. Mis hijas ya profesionales han salido, auditores, licenciados.
La deuxième fois que j'ai gagné de l'argent, j'ai bien réfléchi cette fois-ci. J'ai su administrer mon argent. Mes filles sont maintenant étudiantes. Il y en a d'autres qui sont déjà comptables.
Con la idea de ellos, he salido adelante.
C'est en pensant à eux que j'ai pu épargner cet argent et l'administrer bien.
Sí.
Alors, au mois de décembre, vous allez voter pour qui? Vous allez voter pour Evo?
Para Evo.
Para Evo.
Evo.
Somos el partido de Evo siempre.
On est tous de Evo.
Ah, d'accord. Evo, c'est le président des hommes qui réussissent.
Des pauvres.
Des pauvres.
Ah bah des pauvres, vous êtes plus pauvres, vous.
Pero soy campesino, ¿no?
Mais je suis paysan.
Paysan enrichi.
Yo soy campesino y no puedo marginarlo.
Moi, je suis paysan, je peux pas non plus oublier d'où je viens. Mm-hmm. Alors tiens, bah ça, alors c'est un mausolée aussi d'une mine, de la mine Compotosi.
Il y a marqué silencio, silence, aquí descansan los hombres, ici reposent les hommes qui ont laissé leurs poumons en las minas, que dejaron sus pulmones en las minas. Il y a une fresque sur ce mur, la coopérative minera Compotosi, LTDA, c'est...
Société à responsabilité,
responsabilité limitée. C'est-à-dire que quand tu meurs, la coopérative ne se responsabilise plus de toi, ni de ta veuve, ni de tes enfants.
Donc Société à responsabilité limitée, LTDA. Alors il y a une première photo. Oh digno obrero, aquí termina tus servicios a la comunidad minera. Donc, oh digno ouvrier, ici termine tes services à la communauté minière. Desde ahora disfruta el descanso. À partir de maintenant, profite du repos. Eterno con Dios, et là ça se gâte, éternel avec Dieu.
Dans l'éternité avec Dieu. Et ça, c'est le bonheur final. Le grand tout.
Comme à la marelle, tu finis par le ciel.
Coopérative, coopérative, on a beaucoup de mal à comprendre ce système de travail des mineurs de Potosí. Ça a été un syndicat énorme à travers la Bolivie, que le syndicat des mineurs, mais qui a été complètement anéanti en 1985. On évoquera cette fin du grand syndicat des mineurs. Et aujourd'hui, on dit oui, les mineurs travaillent sous une forme coopérative et on voit effectivement ce mausolée d'une coopérative. Mais comment ça fonctionne? C'est un mot piège, coopérative. C'est pas une vraie coopérative. C'est un genre d'auto... C'est un peu comme le système de l'auto-entreprise. En France, on a évoqué hein, ce système qui a l'air de beaucoup plaire, d'après le gouvernement, aux Français. Auto-entreprise qui serait associée. Des auto-entrepreneurs qui seraient associés. Voilà ce que serait la coopérative. Et puis, ces auto-entrepreneurs associés emploient des secondes mains, des journaliers, et cela dans des conditions encore plus précaires et fragiles que les auto-entrepreneurs eux-mêmes. Mais voilà l'explication de Pascal Apsi qui, je le répète, fait des recherches sur les conditions des travailleurs et des mineurs de Potosí, et évidemment donc des coopératives.
Il faut savoir qu'il y a plusieurs statuts dans la coopérative.
Oui.
Il y a les associés qui, eux, comme ils sont légalement, ils font légalement partie de la coopérative, ils payent effectivement leurs cotisations sociales. Donc ils ont l'assurance sociale, ils ont la retraite, etc. Ensuite, ils emploient des gens qui travaillent avec eux et qu'on appelle des deuxièmes mains. Ces deuxièmes mains, ils vont faire le même travail qu'eux, c'est-à-dire tout ce qui est technique, etc. Ils font exactement la même chose. Ils sont également payés à la production, c'est-à-dire qu'ils vont se partager la production entre les associés et les deuxièmes mains, mais les deuxièmes mains n'ont aucune existence légale dans la coopérative. C'est-à-dire qu'ils n'ont généralement pas d'assurance sociale, généralement pas de retraite, et surtout, ils n'ont pas de participation politique à la vie de la coopérative. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas l'usufruit d'un lieu de travail. Alors, ils peuvent gagner parfois aussi bien qu'un associé, puisqu'en fait, ils peuvent faire 50-50. Ils se partagent un lieu de travail, l'autre, c'est pareil. Et ensuite, tous ces gens-là, tant les associés comme les deuxièmes mains, les segunda manos, peuvent employer des journaliers qui sont, eux, payés à la tâche, par exemple, au nombre de wagonnets qui sortent, ou à la journée. Et ces gens-là, ces journaliers, font donc les travaux les moins spécialisés. C'est-à-dire que les journaliers, c'est en général ceux qui chargent le minerai, ceux qui portent le minerai à l'intérieur de la mine, parce qu'il faut le sortir depuis l'intérieur de la mine. Tandis que les associés et les deuxièmes mains vont faire les tâches plus spécialisées, notamment la perforation, l'explosion, et puis le choix, l'ingénierie, de choisir de travailler là ou plutôt que là. Par exemple, les journaliers sont en général des gens qui peuvent venir des campagnes pendant les époques de césure agricole, quand il n'y a pas de cueillette, quand il n'y a pas de récolte, etc. Et ils viennent travailler quelques mois, ils peuvent venir de très loin, ils viennent travailler quelques mois, et ce qui permet d'avoir un peu d'argent dans l'économie rurale, ou ce qui est très peu monétarisé. Et d'autres commencent comme journaliers, et ensuite ils gravissent tous les échelons. Donc ils sont journaliers, une fois qu'ils ont acquis le savoir-faire, ils peuvent devenir deuxième main. Et quand ils ont envie, c'est-à-dire quand ils savent qu'ils vont rester là pour un certain temps, ils peuvent devenir associés, puisque pour être associé, il faut acheter une espèce d'action entre 200 et 2000 dollars. Donc quand on devient associé, ça veut dire qu'on a quand même pris la décision de travailler à la mine. Donc chez les gens qui viennent des campagnes et qui ont commencé comme journaliers, ça s'accompagne du fait que la famille va arriver à Potosi, ils s'installent à Potosi, et là ils deviennent mineurs sur le long terme. Et puis surtout, c'est une véritable éponge à chômeurs, puisqu'en fait, ce qui compte ici, c'est pas le revenu, c'est l'emploi. Et comme c'est quasiment de l'auto-emploi, la montagne peut employer autant de gens qui ont envie de travailler avec elle. Et il n'y a que le fait qu'ils ne gagnent plus qui fait que les gens s'en vont. Mais il y a une capacité d'absorption, il peut y avoir 15 000 mineurs. Si 10 000 ont décidé que c'était pas grave de ne pas gagner beaucoup d'argent. Donc finalement, la mine coopérative, c'est un fabuleux régulateur du marché du travail. Puisqu'en fait, elle offre toujours de l'emploi. Si toi, tu veux aller à la mine, c'est très simple. Tu peux aller comme journalier, ou tu peux même décider de rentrer, de payer ton action, et de rentrer et d'essayer de trouver du minerai. Et tu peux être un an, deux ans, sans produire rien. Mais tu as un emploi. Ce que tu n'as pas, c'est un revenu. Quand les mineurs d'État ont été désemployés par l'État, ils sont tous rentrés dans des coopératives, et qu'importe s'ils gagnaient ou ils gagnaient pas, ils avaient un emploi et cet espoir un jour de gagner.
Con mucho cariño,
mon cœur,
vuelve
le grand retour du groupe
Amadeus de Potosí, Bolivia.
Mineros de mi tierra trabajando.
Les mineurs de mon pays travaillent jour et nuit avec la coca et la cigarette, pauvres mineurs de mon pays. Mineur depuis déjà si longtemps, je me demande ce que j'ai trouvé. À peine 5 cailloux dans le creux de ma main, mais le cœur démoli.
Para todos los mineros de mi tierra Potosí y los centros mineros de Bolivia. Amadeus.
Le travail de la mine est la sépulture des hommes. Le cœur en est un et le sang des mineurs. Pauvres mineurs de mon pays qui travaillent sans arrêt, mal payés et exploités, qui travaillent sans arrêt.
Alors là, quand même, on est dans un drôle d'endroit. On était au cimetière et nous voilà au bordel. Et entre le cimetière et le bordel, on a fait 100 mètres, même pas. Voilà, et ça, c'est Potosí. Alors,
Comment vous vous appelez ?
Je m'appelle Carlos Vargas García.
Je m'appelle Carlos Vargas García.
Bon, on dit Carlos alors.
Carlos.
Oh, Carlita.
Oh, Carlita aussi.
Alors, Carlita, là, c'est autre chose. C'est autre chose, Carlita. On a une Carlita, nous, nationale en France, la femme du président de la République.
Yo aquí soy muy famoso.
Moi aussi, je suis très connu ici, de tous les mineurs.
Trabajo aquí en Potosí 15 años.
Moi, ça fait 15 ans que je travaille ici, à Potosí.
Viene mucho la gente de la minería,
a bailar. Gens viennent beaucoup ici pour danser.
Ahora que ha bajado todo, ¿no?
Maintenant
la gente ya...
Que tout igual, a baissé, l'activité a baissé. Siguen bien.
Siguen viniendo, pero
mais ils continuent à venir.
Ha bajado la situación económica para
mais
todos.
Les revenus de, ont baissé. Là.
Et voilà les bières.
Sí, aquí ha bajado mucho. Hay menos chicas, menos personal.
Moins
se
de personnel.
Van a otros lados a trabajar.
Ils essaient d'aller à
Villazón.
Ils vont à Villazón, à la frontière. Quoi.
Alors, elles ont dû baisser leurs tarifs, alors, du coup.
Han bajado mucho. Antes cobraban 120 bolivianos,
200 bolivianos. 200 bolivianos.
Ahora cobran 50, 30, 40 bolivianos la pieza. Sí, para pasar a la pieza con el cliente.
Por pasar en chambre avec le client.
Ah, pour passer en chambre avec le client, c'est maintenant c'est 5 euros, 3 euros.
Dura 15 minutos.
Donc ça, c'est 15 minutes dans la chambre.
Pero aquí todas las mujeres van al médico, pasan médico.
Mais ici, attention, toutes les femmes,
tienen carton de médico.
Chez le médecin, elles ont un certificat
todo.
Médical.
Hasta yo voy al médico porque
même moi,
tengo que prevenirme del SIDA, ¿no?
Parce que moi, je dois faire attention au SIDA.
A eso.
Et on va tous chez le médecin.
Las chicas o nosotros, nuestra persona, somos ligeros con la boca o con la mano ya.
On fait tout ce qu'il faut avec la bouche.
Ese es mío y boom, 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 ya.
Ouais, ça vous savez vous y prendre.
Si, le service est impeccable.
Le service il est impeccable ici.
Ouais.
Salut.
Salut.
Pas todos.
Ah, il faut mettre un peu de bière par terre.
Pour les... Si t'as quelque chose à demander aux âmes, c'est le moment.
Oui, mais alors je me demandais pourquoi ça collait par terre, c'est ça, c'est des âmes.
Alors, c'est pas seulement les âmes, c'est aussi comme les filles sont payées au nombre, à la consommation, il faut bien qu'elles ne peuvent pas tout mettre dedans. Il faut aussi qu'elles en mettent un peu dehors. Donc en fait, finalement, les rituels, ça aide aussi. On dit pour les âmes, et hop, tu mets une demi-bouteille de bière par terre, et tu recommandes, et tu regagnes ta commission. En plus, ça fait partie de la coutume, alors comme ça, c'est un acte de dévotion.
C'est pour ça que ça colle.
C'est pour ça que ça colle.
D'accord. Non, ça colle vraiment, hein. Merci à Carlita, merci à tous, merci à Pascal Absy. C'était un reportage avec Antoine Chao, montage Agnès Lebot. Merci à Pablo Cruz. D'autre part, nous vous signalons que demain, mardi 2 juin à 16h, la librairie Quilombo organise une rencontre avec Howard Zinn, historien américain, au CICP 21 Terre rue Voltaire, à Paris, dans le 11e, à 16h, je l'ai dit, métro Nation ou rue des Boulets, dépêchez-vous, parce que je crains qu'il y ait beaucoup de monde pour rencontrer notre ami Howard Zinn. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. Et là aussi, vos commentaires sont attendus. À la technique aujourd'hui, Antoine Viossa, Edwin Caron, Coy Nguyen et Raphaël Mouterde ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry. Agnès Lebot, quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de la base où j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.